affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour va mettre à l'épreuve la validité des jugements que nous portons rétrospectivement sur les personnages illustres qui ont jalonné l'histoire de France. Même si le terme de roman national n'est plus aujourd'hui très bien vu, nous conservons en effet collectivement, en tant que peuple, des affinités électives qui nous font préférer telle ou telle figure, nous souvenir de certaines et en oublier d'autres. Cela est notamment vrai pour les rois, qui, quoi qu'on en dise, continuent à hanter notre imaginaire. Ainsi, selon les sensibilités de chacun, nous chérissons volontiers Hugues Capet, le fondateur, Louis IX, le fameux Saint-Louis, François Ier, l'ami des arts, Louis XIV pour sa flamboyance, voire Louis XVI pour son martyre. Dans ce panthéon dynastique, on cite beaucoup plus rarement Charles VII. Dans la mémoire collective, celui-ci est, j'allais dire, au mieux absent, soit dénigré. Parmi ses contemporains, on leur préfère bien évidemment Jeanne d'Arc, qui fait d'ailleurs l'objet d'un énième film sur les écrans actuellement, ou dans un style très différent, l'entrepreneur Jacques Coeur, sorte de précurseur du capitalisme moderne. On s'étonne d'ailleurs que Sir Daniel ne fasse pas l'objet d'une biographie de circonstance de la part de la politique, tant il viendrait apporter un éclairage sur l'esprit du temps. Non pas tant celui de Charles VII que celui d'aujourd'hui probablement. Mais notre invité de ce jour n'est, Dieu merci, allais-je dire, pas un politique, c'est un historien. Et c'est certainement la raison pour laquelle il a choisi, lui, de consacrer une biographie à Charles VII. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Philippe Contamine. Philippe Contamine, bonjour.
Bonjour.
Philippe Contamine, vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université de Paris-Sorbonne. Et vous êtes ici chez vous puisque vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et vous venez donc de signer une biographie de Charles VII, biographie sous-titrée « Une vie, une politique ». Mais elle aurait pu tout aussi bien être sous-titrée « Mémoire en réhabilitation », je me trompe.
Deux remarques sur votre introduction, j'y adhère pleinement. Effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu banal de dérouler la succession des rois de France. Ces rois de France qui sont réputés avoir fait la France, ce qui peut-être n'est pas tellement évident. Et donc quelque chose de banal, et vous avez employé le mot de roman national, je préfère celui de récit national, car je prétends dans cette biographie, non pas écrire un roman, mais écrire de l'histoire que je m'efforce, entre guillemets, d'être vrai. Le mot « vérité », vous savez, aujourd'hui, est un petit peu mis en question. Mais enfin, je suis un historien méthodique, un historien positif qui travaille avec des sources, assez près des sources, volontairement assez près des sources. Et je m'efforce de saisir Charles VII, non pas peut-être en soi, mais tel que les contemporains, en tout cas, ont pu le comprendre, l'approuver ou le désapprouver. Donc voilà, comme ça, je vois les choses ainsi. Alors effectivement, Charles VII, comme on dit, n'a pas bonne réputation. Et vous avez mentionné dans votre présentation deux raisons pour lesquelles sa réputation est médiocre. Une réputation qui, du reste, se traduit dans les films. C'est dans la mesure où il est connu, ce qui n'est pas tellement évident. D'abord, le fait qu'il a abandonné Jeanne d'Arc alors que Jeanne d'Arc lui a donné la couronne. Et puis ensuite, le fait qu'il avait à ses côtés un homme de génie, un capitaliste, un chef d'entreprise, Jacques Coeur, et qu'il l'a fait condamner. Il a confisqué ses biens, il l'a incarcéré, enfin, il ne l'a pas mis à mort, c'est une affaire entendue. Mais enfin, dans ces deux cas, il s'est montré, selon la Vulgate, ingrat.
Est-ce que dans l'image que nous faisons de lui, il n'est pas aussi victime des temps extrêmement durs et de la situation pour le moins délicate dont il hérite, c'est pas...
Je crois qu'il hérite d'une situation extrêmement difficile. C'est un un héritier qui, à la suite de différentes circonstances, est déshérité. Et par conséquent, il fallait pour lui récupérer cet héritage et tout cet héritage. Car si j'emploie le mot « une politique », c'est que je le crois animé par une idée force qui est celle de ses prédécesseurs, maintenir l'intégrité du royaume de France, de la France, tout le royaume de France. Après tout, il aurait pu être dépecé. Et puis ensuite, que ce royaume de France, eh bien, soit dirigé par sa dynastie, sa maison. Donc il y a une sorte d'équivalence entre le royaume de France et la maison de France. Et Charles VII, c'est quelqu'un qui rêve France. On a dit de Louis XI, je suis France, eh bien on peut dire déjà de Charles VII, et à plus forte raison, je suis France.
Alors, à l'époque, lui en a la certitude, semble-t-il, c'est ancré au fond de son esprit et de son cœur, mais si on regarde la carte de France et la situation géopolitique, dirait-on aujourd'hui, ça saute pas aux yeux.
Il a la certitude, il a dû se poser des questions. Malgré tout, il s'est posé des questions sur sa propre légitimité. Parce que nous sommes dans une période de chrétienté, où par conséquent, tout se déroule, et notamment le destin des royaumes, sous le regard de Dieu. Pourquoi la Providence l'a-t-il mis dans une telle situation, dans une telle impasse? Est-ce que finalement, la Providence souhaite qu'il soit, qu'il devienne, qu'il se maintienne ou qu'il parvienne reconquérir son royaume. Donc je crois que quand même, il s'est interrogé, c'est resté en sourdine, il ne l'a jamais dit, mais je pense que l'un des éléments choc que Jeanne d'Arc, il faut revenir à Jeanne d'Arc, lui a apporté, c'est cette conviction, tu es le vrai. Les prophètes, les prophétesses ont le droit de tutoyer les grands. Tu es le vrai roi de France. Hein, c'est quelque chose de très important. Et il y a quelque chose de mystérieux. Comment est-ce que cette fille qui venait du fin fond du Barrois, de la Lorraine, etc., dont Rebelli, 17 ans, sans culture, parlant probablement un accent lorrain, mais enfin, qui était compris à la cour de France, pourquoi, comment cette fille a réussi à le convaincre, à le conforter dans cette idée qu'il est, malgré des obstacles, malgré les échecs, de toutes sortes, malgré les interrogations, il est le vrai roi de France.
Oui, parce qu'à ce moment-là, il est parfaitement au bord du gouffre.
Absolument. Et je le crois qu'il est au bord du gouffre. Et ça pouvait véritablement très mal se passer pour lui. Les contemporains le disent, ce n'est pas une imagination des historiens. Il est bon pour aller à l'hôpital, dit un Vénitien qui recueillait les bruits, qui était installé à
Bruxelles. Il dit, si Orléans tombe, c'en est fini.
Aller à l'hôpital et mendier son pain. Alors moi, j'imagine que les contemporains le voyaient, disons, au loin, s'exilant. Vous savez, à l'époque, finalement, les rois ne lâchaient rien. Donc, il aurait continué dans son exil. On a parlé de la Castille, on a parlé de l'Écosse, on a parlé du Dauphiné, qui n'est pas tout à fait le royaume de France. Il aurait continué à revendiquer le titre de roi de France, mais comme, disons, le roi René de Sicile, revendique le trône de Sicile et le trône de Jérusalem.
Alors, cette situation dans laquelle il se trouve, il n'en est pas le responsable. Il en hérite lorsque Charles VII naît. Dans quel état trouve-t-il le royaume?
C'est contrasté. D'une part, je crois que c'est un fond de tableau pendant toute cette période. Cette période, c'est quand même la France en particulier, diminuée démographiquement. Je pense qu'il y a moitié moins de Français en 1410 qu'en 1340, avant la peste noire et toutes les épidémies subséquentes. Et puis, il y a un appauvrissement général de la France, une sorte de désolation qui s'explique par plusieurs raisons. Et la raison à laquelle les contemporains étaient le plus sensibles, c'est la perpétuation de la guerre, ce qu'on appelle la guerre de Cent Ans. Alors donc, il y a ce fond de tableau, une France appauvrie. Une France appauvrie, mais en même temps, les choses vont, viennent, etc. Il y avait eu rétablissement de la situation grâce à Charles V, qui a été roi de France entre 1364 et 1380, qui est mort peut-être trop tôt. Et donc là, il y a une sorte de sursis, de début de reconstruction. Donc l'optimisme aussi apparaît. Et puis, tout est relatif. Et autrement dit, pour financer la guerre, on avait mis, depuis le milieu du XIVe siècle, des impôts sur les Français. Les Français se sont habitués à l'impôt à cause de la guerre de Cent Ans, à partir du début du milieu du XIVe siècle. Et donc, ces impôts rentraient, bon an, mal an, et comme la guerre s'était un peu assoupie, finalement, au niveau central, à Paris, il y avait un certain luxe, une certaine prospérité. Et cette prospérité se traduit par des œuvres d'art, le mécénat, etc. Alors donc, il y a un contraste, un appauvrissement, un malaise général, d'autant que à l'époque, il y avait deux papes, c'est l'époque du grand schisme, etc. Et puis, en même temps, cette idée que la France, le royaume de France, la très chrétienne maison de France, gardait son prestige, et qu'il y avait de l'argent, beaucoup d'argent, à Paris, dans la cour.
Alors, par effet de contraste, vous le citez, à la même époque en Italie, c'est le Quattrocento, hein, c'est ça, hein ?
Absolument. Absolument.
L'ambiance n'est pas du tout la même.
L'ambiance n'est pas la même. Mais l'Italie aussi a connu la peste noire. Hein. Voilà.
Alors pour le rappeler simplement à nos auditeurs, lorsque Charles VII naît, il trouve quand même un pays qui est déchiré entre Armagnac et Bourguignon. À l'âge de, vous disiez, les fées n'étaient pas sur son berceau parce qu'il hérite d'une situation délicate. Vous avez dressé le tableau général. 1407, reprise de la guerre entre Armagnac et Bourguignon. Il a 4 ans. À 12 ans, le désastre d'Azincourt.
Alors pourquoi
on connaît des règnes faciles. Plus faciles.
Ça, c'est une affaire entendue. Pourquoi cette situation? Eh bien, ça vient d'une chose, d'un élément de hasard, à savoir que tout était construit. La construction politique de la France culmine avec le roi. Il faut que le roi soit à la hauteur. Or, ce roi, le père de Charles VII, Charles VI, eh bien, depuis 1392, ça ne va pas du tout. Il a une sorte de névrose, une psychose, je ne sais trop. Les contemporains se sont beaucoup interrogés. Et donc, il n'est plus dans son assiette. Et en même temps, il est suffisamment présent par moments, avec des lueurs, un moment de lucidité, etc., pour qu'on ne l'écarte pas tout à fait. Donc, il conserve le pouvoir. Il est l'arbitre suprême, mais n'en ayant plus la compétence journalière quotidienne. Alors, du même coup, dans la maison royale, il y a une rivalité pour, je ne dirais pas le supplanter, mais pour accaparer les ressources du pouvoir, le pouvoir lui-même. Alors, d'un côté, il y a le frère du roi, Louis, duc d'Orléans, et puis de l'autre, son neveu, Jean sans peur, duc de Bourgogne. Donc, il y a les Orléans, les Orléanistes, si vous voulez, et les Bourguignons. Donc c'est une guerre civile, une dissension, une division, c'est le terme de l'époque, au sommet. Et cette division diffuse, si bien que, à travers l'opinion publique, surtout dans les villes, il y a des partisans des Orléans et puis il y a des partisans des Bourguignons.
Face à cela, pour couronner le tout, si j'ai bien compris, il y a cet événement dramatique qui consiste, parce que, après tout, le roi aurait pu se placer fort de son héritage dynastique au-dessus de ses querelles, car dynastiquement parlant, il est légitime.
Tout à fait.
Se placer au-dessus. Mais,
il n'en a pas la capacité mentale.
Au départ. Non, mais je parle
de Charles VII.
De Charles VII.
Ah, de Charles VII. Ah bien oui, bien sûr. Alors, il se trouve que peut-être que ça aurait pu se passer comme ça, mais lorsqu'il est devenu aux affaires, par la suite de circonstances, la disparition de ses frères, etc., il est venu aux affaires en 1417. Donc, ça te la règne très long. J'insiste sur ce point. 1417-1461. En 1417, il est dauphin, et puis ensuite, il devient régent, et puis ensuite, il devient roi en 1422-1461. Donc, ça aurait pu se passer différemment, mais il a été pris dans cette division et il a commencé son règne en étant du côté des Armagnacs et face à lui, il y avait les Bourguignons. Donc, cette guerre civile, il était partie prenante. Après tout, il était très jeune, 1417, il est né en 1403, par conséquent, il avait 14 ans. Hein. Donc, il était, quelle que soit sa précocité, je ne suis pas très très précoce d'ailleurs, eh bien, c'était très difficile pour lui. Et puis, grâce à cela, eh bien, à la faveur de cette division, eh bien, il y a eu la tentative de Henri V, roi d'Angleterre, qui a repris l'héritage de ses prédécesseurs, les ambitions de ses prédécesseurs, à savoir, à la limite, devenir roi de France.
Oui, parce qu'au même moment, je citais l'Italie, voilà. Mais au même moment, ça se passe plutôt bien en Angleterre.
Exactement.
Pas de chance.
Tout ça est mêlé, naturellement. Devenir roi de France, et donc il y est parvenu, Henri V a failli y parvenir, en 1420, grâce au traité de Troyes, qui lui annonçait à terme qu'à la mort de Charles VI, dont il était devenu du reste le gendre, ayant épousé une sœur de Charles VII, Catherine, eh bien, à la mort de Charles VI, il serait devenu roi de France en même temps que roi d'Angleterre. Il y aurait donc eu un seul roi pour deux royaumes.
Pour deux couronnes.
Pour deux couronnes. L'union des deux couronnes. Et donc, Henri V était un homme politique. Il savait bien qu'on ne pouvait pas absorber le royaume de France dans le royaume d'Angleterre, ni réciproquement. Mais après tout, l'union des deux couronnes, ça a existé. Regardez l'Autriche-Hongrie, hein, jusqu'en 1918. Il y avait l'Autriche et il y avait la Hongrie. Hein. Donc c'est quelque chose qui, dans l'ancien régime politique, n'était pas absurde. Alors, il se trouve, parce que tout ça est mêlé de hasard, il se trouve que Henri V est mort quelques mois avant son beau-père, en 1422. En 1422, Charles VI meurt. Et
oui, c'est-à-dire que pour les Anglais, la catastrophe, pour les Anglais, entre guillemets, pour
voilà,
la catastrophe, c'est que Henri V décédant avant Charles VI.
Ah, bien sûr. Ça, c'était pas prévu.
Et n'ayant qu'un fils de 9 mois. Ah, ben oui, c'était pas prévu.
Eh bien voilà. Donc, un fils qui a à peine un an, et puis à partir de ce moment-là, on peut parler de schisme royal. Il y a deux rois, le jeune Henri, celui qu'on appelle Henri VI en Angleterre, qu'on devrait appeler Henri II en France, parce qu'il y a eu un Henri Ier au XIe siècle.
C'est compliqué, les doubles
couronnes. Et puis de l'autre côté, il y a Charles VII, deux rois. Alors, avec des forces et des faiblesses. Une faiblesse de Henri, c'est son âge. Hein. Et puis, une faiblesse de Charles VII, eh bien, le fait est qu'il était quand même contesté chez lui. Il ne se faisait plus obéir.
Alors précisément, parce que dans cette incapacité à pouvoir incarner l'ensemble de ce qu'on appellera plus tard la nation, il n'y a pas cet événement dramatique qui est le meurtre précédemment de Jean sans peur, donc duc
en
de Bourgogne,
1419.
En sa présence.
En sa présence.
Tant et si bien qu'on peut le désigner comme un parjure lors d'une négociation pour un traité de paix. Si je
parjure, rebelle, assassin, on peut l'accuser de tous les maux, c'est une affaire entendue. Et voilà. Et donc, il y a cet élément de hasard, de circonstance. Il est mal parti.
Hasard ou circonstance, ou il était complice?
Pardon?
Finalement, c'est une des questions qu'on peut se poser. Présent par hasard à quelque chose qu'il n'avait pas souhaité, complice, c'est difficile de trancher.
Complice. Je pense qu'il était assez jeune, il s'est fait double. Allez-y. On avait dû le prévenir. C'est le 10 septembre 1419, au pont de Montereau, il y aura du grabuge. Méfiez-vous, il y aura du grabuge. Donc, et puis, Jean sans peur, duc de Bourgogne, eh bien, il n'a pas su se protéger. Je n'en sais rien. Donc, les circonstances sont extrêmement troubles. Ce qu'on peut dire, c'est que l'héritier de Jean sans peur, Philippe, celui qu'on appelle Philippe le Bon, duc de Bourgogne, a voulu, normalement, venger son père, ça c'est normal, puis c'est inscrit dans la mentalité médiévale, et donc il y a là quelque chose de personnel extrêmement fort, et du même coup, Philippe le Bon s'est rapproché des Anglais, et c'est le traité de Troyes. Le traité de Troyes, c'était un traité entre Henri V et Charles VI, mais aussi tout autant entre Henri V et le nouveau duc de Bourgogne.
C'est une catastrophe.
Alors, on peut dire que c'est une catastrophe, si vous voulez. Alors, après tout, est-ce que cette union des deux couronnes était inviable ? C'est pas réalisé, c'est une affaire entendue. Est-ce que c'était injouable ? Beaucoup de choses peuvent intervenir, c'est pas tellement évident. Simplement, Charles VII a peut-être bien su y faire, il y a eu Jeanne d'Arc, et puis quand même, il y a cette espèce de pesanteur, à savoir que les Français, qui étaient déjà des Français malgré tout, ils ne souhaitaient pas être sous la domination des Anglais.
Qui étaient déjà des Anglais.
Qui étaient déjà des Anglois, absolument. Nos anciens ennemis et adversaires, bon, c'est comme ça. Et donc les Anglois, les Français ne voulaient pas être sous la domination des Anglois. Alors, et ils ont compris, ou en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont compris le traité de Troyes comme un traité d'humiliation, et non pas comme une façon de sortir par le haut de la rivalité France-Angleterre. Il y a cette espèce de réflexe, bon, appelons-le si vous voulez, un peu identitaire, voire national.
Oui, c'est ça, vous parlez de la naissance d'un sentiment diffus, latente, voilà, du sentiment national.
Voilà. Nous ne sommes pas au 19e siècle, nous ne sommes pas à l'époque de la Révolution française, nous ne sommes pas en 1914. Mais malgré tout...
Oui, malgré tout, on prend comme exemple l'Autriche-Hongrie.
Voilà,
hein.
Voilà, il faut... évitons l'anachronisme, mais je suis de ceux qui pensent qu'il y avait, de reste l'expression existe à l'époque, une nation française, une certaine identité française, au XVe siècle, voire même auparavant, qui intervenait avec bien d'autres identités. Chacun d'entre nous, naturellement, encore de nos jours, a plusieurs identités. Mais celle-là devait quand même un peu jouer. Et on ne peut pas, je crois, expliquer toute cette grande crise politique et militaire du XIVe, XVe siècle sans faire abstraction de cette espèce de réflexe.
La preuve en est, c'est que d'une part, de nombreuses sources cite cette qualité de français. Il y a bien sûr les missives envoyées par Jeanne d'Arc aux Anglais ou aux différentes villes où elle met en avant la qualité de français, mais les chroniqueurs également, si je ne me trompe pas.
On a des bons éléments pour y croire, absolument.
Et enfin, même l'attitude, finalement, d'Henri V, vous parliez de son intelligence politique.
Oui.
Il y a une reconnaissance tacite.
Tout à fait.
Qui est une entité distincte.
C'est comme ça que je conçois le traité de Troyes.
Elle n'était pas seulement dynastique, cette reconnaissance.
Tout à fait. Alors, il y a à la fois le roi de France et la maison de France. Or, la maison de Bourgogne, qui avait son autonomie, c'est une affaire entendue, fait partie de la maison de France. Le duc de Bourgogne, c'est un prince des fleurs de lys, un prince du sang. Et il a quand même cette conscience. Et le grand chroniqueur de Philippe le Bon, Georges Châtelain, un chroniqueur dont malheureusement toutes les œuvres ne sont pas été conservées, y insiste, si bien que cette rupture entre Charles VII et Philippe le Bon était considérée à l'époque, y compris par Philippe le Bon, comme antinaturel. Alors, c'est un petit peu ce qui s'est passé, à la longue, après bien des péripéties, puisqu'en 1435, nous avançons, en 1435, il y a eu la paix d'Arras, le traité de paix d'Arras, par lequel Philippe le Bon rompait avec le traité de Troyes et reconnaissait Charles VII comme le roi de France légitime. Or, Philippe le Bon était à la tête des États bourguignons, et une grande partie des États bourguignons, la Flandre, l'Artois, la Picardie, la Bourgogne, se trouvaient dans le royaume de France.
Alors justement, est-ce que ce n'est pas la preuve d'une certaine intelligence diplomatique de Charles VII au fil de l'ouvrage et des nombreuses péripéties, traités successifs, cessations temporaires d'hostilité, ou dans sa capacité à susciter des ralliements, on a l'impression que ce qui peut passer parfois dans sa légende noire comme de la faiblesse, de la pusillanimité, peut-être également une forme d'intelligence. Il est clément.
Tout à fait. Il est clément. À une époque où il aurait pu durcir cette division entre les Français, il a voulu rassembler, en un sens, les Français, oublier les anciennes querelles, Armagnac, Bourguignon, etc., pour... parce qu'il y a au Moyen-Âge, si vous voulez, l'unité, c'est un mythe fondamental. Tout royaume divisé entre lui-même périra. Donc il y avait cette idée d'unanimisme. Et Charles VII a, autant que faire se peut, jouer la carte de l'unanimité, de la concorde, de la clémence. C'était probablement à la fois son tempérament, c'était probablement pas un sanguinaire, à la différence de Louis XI, qui était un méchant. Louis XI, c'est un méchant. Mais ce n'est pas le cas de Charles VII, peut-être un peu faible.
Le dauphin, donc, hein, on parle bien
voilà,
du dauphin.
Voilà,
hein.
Voilà. Bon, mais donc, je pense que c'était son tempérament, et en même temps, c'était sa politique, une politique d'abolition des injures, d'abolition des fautes que ces sujets avaient pu commettre au cours de cette histoire mouvementée.
Alors pour autant, parce qu'on on progresse, vous l'avez dit, traité d'Arras, donc la paix revient, il va enfin pouvoir donc, se consacrer peut-être à la reconstruction du royaume, où il montre un certain talent, là aussi.
Un certain talent, tout à
on
fait.
On a parlé de la naissance du sentiment national, avec lui, est-ce que c'est complètement anachronique de parler déjà d'un certain sens de l'État ?
Ah oui, je pense qu'on peut parler d'un certain sens de l'État. Bon, c'est à la manière du temps, donc on parle de la genèse de l'État moderne. Alors, quand est-ce que cet État moderne est né à travers l'Occident ? Est-ce que c'est vers 1200 ? Est-ce que c'est vers 1300 ? En tout cas, je crois qu'il est pleinement visible au XVe siècle, si bien que c'est un mouvement de fond. L'intérêt public, la chose publique, donc le bien public, c'est un mouvement de fond. Et donc le roi de France, et Charles VII en particulier, incarne cette affaire. Et en particulier, on voit très bien qu'il y a à l'époque une tentative pour qu'il y ait, à travers le royaume de France, une seule diplomatie. Les autres princes, les princes même très puissants, ont une initiative diplomatique limitée, le duc de Bretagne, même le duc de Bourgogne, le comte d'Armagnac, etc. Deuxièmement, il y a cette idée que le maximum de Français doivent payer l'impôt, à travers tout le maximum, n'est-ce pas ? C'est pas évident, hein ?
Non, bien sûr.
C'est pas évident, parce que les moyens de coercition étaient faibles.
Et puis surtout à qui ?
Et puis, troisièmement, il y a également l'armée permanente, dont il a été le créateur, pour ainsi dire, dans les années 1445 et suivantes.
À force de fréquenter les Anglais, il a peut-être eu quelques idées quand même, parce qu'il y avait déjà une armée permanente.
Non, les Français ont accepté, parce qu'ils se sont dit, une armée forte, c'est notre protection contre un retour possible, toujours possible, des Anglais qui sont là tout prêts à recommencer leur aventure, qui n'ont pas accepté leur défaite. Ils n'ont pas accepté leur défaite.
On le disait bien qu'ils étaient déjà Anglais.
Ils sont tenaces. Ils sont tenaces, c'est leur qualité. Et puis troisièmement, un autre élément encore, si vous voulez, le roi justicier, il y a une reprise en main de la justice au plus haut sommet, le Parlement, etc. Et puis ensuite, il y a l'Église de France, ce qu'on appelle l'Église gallicane, dont de plus en plus Charles VII est le maître, et c'est ce qu'on appelle le gallicanisme, dont l'une des chartes, la charte de fondation, c'est la pragmatique sanction de Bourges de 1438, qui était, disons, un acte royal visant à redonner à l'Église de France son autonomie par rapport au pape, mais en réalité, le vainqueur, ça a été le roi de France.
Oui, car il obtient là, pour être précis, le droit de nommer les évêques ou de refuser leur nom. Ça se fait en tractation.
C'est plus compliqué que ça. Mais enfin, disons que Charles VII a plus qu'auparavant la main mise sur la nomination des évêques, voire des abbés, des grands monastères. Et puis ensuite, à l'époque, eh bien, il y avait des procès en cour de Rome. Et ces procès sont limités. Le plus possible. Et puis ensuite, il y avait des impôts payés par l'Église de France à Rome. Et ces impôts, là encore, sont ce qu'on appelle les décimes, etc., les annates, etc., sont limités le plus possible. Donc ça plaisait aux Français, si vous voulez. Donc l'autonomie de l'Église de France, l'Église gallicane, la grande Église gallicane, bon, je renvoie à Bossuet, etc., dont Louis XIV a été, à son époque, l'incarnation, en tout cas le porte-parole. Donc tout ça, ça avait beaucoup de choses.
Alors, lorsque nous parlons comme ça, tout semble aller de soi, dans la quiétude ou l'évidence que nous pouvons porter après sur ces choses. Mais en fait, il a quand même dû un petit peu batailler. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'épisode de la Praguerie ? Parce qu'on a l'impression que tous les seigneurs sont ralliés à lui.
Tout à fait. C'est un moment très important. Pourquoi la Praguerie ? Eh bien, parce qu'il y avait un mouvement politico-religieux en Bohême, dans le royaume de Bohême, la capitale est Prague, naturellement, qui culmine avec Jean Hus, Hein, l'hérétique Jean Hus, qui a été brûlé par ordre du Concile de Constance en 1415, et donc Jean Hus, le hussitisme, et donc c'était un mouvement, disons, de révolte politique et militaire, militaire et religieux. Il y a eu des croisades pour résorber ce mouvement, et donc les Pragois étaient réputés des rebelles. Et donc on a appliqué ce terme de Pragois aux gens, aux princes, qui se révoltaient avec plus ou moins de force et de détermination contre l'autorité de Charles VII en 1440. Charles VII en 1440 est devenu plus puissant, il a récupéré Paris, etc. Et donc les princes se disent, mais c'est pas tout cela, nous voulons maintenir le plus possible notre autonomie, Charles VII ne nous prend pas suffisamment au sérieux, nous n'avons pas suffisamment de place dans le gouvernement, plus les finances, etc. Et donc, nous souhaitons avoir le droit à la parole. Parce que la France était compliquée. C'était une monarchie forte, c'est une affaire entendue, mais il y avait ces puissantes principautés territoriales et il fallait compter avec elles. Alors, cette praguerie a été d'autant plus dangereuse, 1400-1440, qu'il se trouve que le propre fils le fils aîné, l'héritier de la couronne de Charles VII, le futur Louis XI, qui était né en 1423, mais s'est montré très jeune, un tempérament indomptable.
Je n'ai pas d'admiration,
je n'ai pas d'amitié pour lui. Bon, c'est une affaire entendue. J'aime bien Charles VII, Louis XI, je suis plus réticent. Et donc il s'est associé avec ses princes contre son père. Et donc, dans la perspective du temps, la révolte du fils contre le père, c'est quand même très mal vu.
Mais il surmonte l'épreuve.
Et Charles VII, là, pour une fois, a fait preuve d'autorité. Et cet incident, très important, ça aurait pu se terminer par une véritable guerre. C'est plus qu'un incident, n'est-ce pas ? Cet événement s'est terminé au profit du roi de France. Mais ça n'était pas terminé parce que les princes ont continué à jouer leur propre jeu. Et c'est ainsi qu'en 1455-1456, l'un des princes des Fleurs de Lys, Jean, duc d'Alençon, s'est abouché avec les Anglais. Et donc il y a eu ce grand procès, ce lit de justice à Vendôme en 1458. Nous sommes un petit peu dans la même lignée.
Dans ce rapport avec les autres forces présentes dans le royaume, il y a un autre trait frappant, c'est sa réticence à rassembler les États généraux. Ça aussi, peut-être que ça annonce un peu l'État moderne.
Si vous voulez, les États généraux, c'est quand même des gens qui se rassemblent pour discuter, pour protester, etc. Et donc, le modèle de la royauté française acceptait de négocier, de dialoguer avec les gens, ça c'est une affaire entendue, était à l'écoute. On pouvait présenter ses doléances, etc., mais pas dans un cadre institutionnel. Et donc là, c'était un modèle différent du modèle anglais. Peut-être que le roi d'Angleterre jalousait le roi de France pour son autonomie. Mais le fait est que Charles VII a réussi à surmonter l'obstacle des États généraux et il n'y a plus eu d'États généraux convoqués entre 1439 et puis ensuite, c'est bien, il faut remonter en 1467. Donc, toute la fin du règne de Charles VII, il n'y a plus d'États généraux à proprement parler, de 1439 à 1461. Et donc, du même coup, eh bien, il n'y a plus. Parce que le propre de ces États généraux, qui représentaient la société politique, à savoir les bonnes villes, les prélats et les seigneurs, c'était, disons, de discuter du montant de l'impôt. Alors donc, ainsi, le montant de l'impôt, ce qu'on appelle la taille des gendarmes, puisque cet impôt était destiné en principe essentiellement à financer cette armée permanente de gendarmes, eh bien, Charles VII en fixait, disons, librement le montant. En réalité, il fallait être raisonnable. Il y avait les possibilités de négocier, etc. Mais il n'y avait pas cette tribune politique que pouvaient représenter les États généraux.
Est-ce que vous me permettez, vous citez Tocqueville à ce sujet dans l'ouvrage, où il y voit les prémices la fin de la féodalité, j'imagine, et puis les prémices de la monarchie absolue Et qui provoquera les événements qu'on...
C'est l'interprétation. Oui, c'est
de Tocqueville. Vous me permettez de la lire ?
Ah, bien sûr.
Ensuite, vous laisserez la commenter. Donc Tocqueville déclarait, écrivait, « J'ose affirmer que du jour où la nation fatiguée permit au roi d'établir un impôt général sans son concours et où la noblesse eut la lâcheté de laisser taxer le tiers-état pourvu qu'on l'exemptât elle-même, de ce jour-là fut semé le germe de presque tous les vices qui ont travaillé l'ancien régime pendant le reste de sa vie et ont fini par causer violemment sa mort. »
C'est bien dit, à la mode du 19e siècle. Hein, bon. Et Tocqueville reprend une idée qui est assez courante. Je l'ai retrouvée récemment, je ne l'ai pas citée, peut-être que dans Chateaubriand, c'est la même idée. Et déjà, on la trouve un petit peu chez Montesquieu. Et où, bon. Donc, c'est une espèce d'interprétation politique qui montre qu'il y a un tournant fort, malheureux, bienheureux, on peut en discuter naturellement, qui se situe au milieu du XVe siècle et ce tournant, l'initiateur en a été Charles VII.
On sort de la féodalité. À ce moment-là, c'est un moment de césure.
On commence à en sortir. Ça a duré encore longtemps. Hein. Ça a duré. Après tout, la Ligue, après tout, la Fronde, oui. S'il y a des aspects féodaux, ça a mis très longtemps à se sortir tout à fait de ce qu'on peut appeler, d'un terme un peu rapide, la féodalité. Donc c'est un mouvement de grande ampleur, mais il y a ce tournant du milieu du XVe.
Mais de fait, ce qui est frappant en parcourant... votre ouvrage sur le règne de Charles VII, c'est qu'on trouve une multitude, mais peut-être est-ce vrai de tous les règnes, une multitude de correspondances avec des événements passés de l'histoire de France ou à venir. Vous venez de citer la Fronde. On a l'impression que c'est une sorte de condensé des enjeux, un petit peu comme si la France, de par sa constitution politique et spirituelle, était condamnée à revivre sans cesse de tel type d'événements.
Condamné, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut suivre un fil directeur avec des hauts et des bas. Et donc, je crois qu'il y a un déroulé, si vous voulez, de l'histoire politique de la France depuis, en tout cas, le XIVe siècle et surtout depuis le règne de Charles VII. Si bien que Louis XI a repris, mais en plus brutal, à mon avis, et parfois en plus maladroit, a repris la politique de son père. Finalement, Louis XI l'a emporté. Louis XI a pour lui beaucoup de prestige. Il était plus intelligent, incontestablement. Bon, plus intelligent, mais peut-être trop intelligent. Charles VII n'avait pas peut-être cette spontanéité, mais il a fait le job. Il a fait le job lui-même. Donc, j'insiste là-dessus, on le sent à l'œuvre. En tout cas, une grande partie de son règne, peut-être pas tout le temps, il y a des moments d'assoupissement, etc. Mais on sent, il a fait son métier de roi avec constance. Il connaissait les problèmes, il connaissait les gens, il suivait les affaires, notamment les affaires financières. Il y a, on le voit parce qu'il y a des signatures dont il est l'auteur sur les documents, et pas simplement sur les chartes, mais également sur les documents financiers. Les rôles de finance, c'est lui qui les signait.
Hein. Oui, donc, il était investi, c'est pas un roi paresseux.
Et voilà, donc c'est pas un roi paresseux, c'est un roi laborieux. Alors, combien de temps dans la journée est-il consacré aux affaires ? Bon, je n'en sais rien, mais c'était assez régulier, et on le voit très bien, parce qu'on a quelques procès-verbaux de conseil, et donc là, on voit bien que le roi était souvent présent, ou à proximité, il se faisait tenir au courant, et il savait eh bien, qui est qui ? Donc, il voyait beaucoup de choses, et puis là, dans les négociations diplomatiques, souvent... Les rois de France étaient en retrait. Et à plusieurs reprises, on voit Charles VII intervenir lui-même en personne, prendre la place de son porte-parole, le chancelier, et expliquer aux ambassadeurs, notamment Bourguignon, le fond de sa pensée.
Vous avez raison de préciser tout cela, car dans l'imaginaire collectif, pour y revenir, on l'a appelé le roi bien servi. Ce qui laisse à entendre que lui aurait été un petit peu falot, déficient, mais que par chance, il était bien entouré, que du coup, on s'en serait tiré. Mais vous allez à l'encontre de cette thèse. Et puis après tout, bien s'entourer, c'est peut-être une qualité fondamentale.
Effectivement, il s'en est bien tiré. Donc il a quand même eu des grands hommes politiques à ses côtés, hein, et des bons conseillers. Jean Juvénal des Ursins, L'archevêque de Reims, qui a écrit un certain nombre d'épîtres à son intention pour l'éclairer, pour le guider. Bon, ça, c'est une affaire entendue. Et puis, il y a eu Jacques Coeur, nous l'avons déjà cité. Et puis, également Pierre de Brezé, n'est-ce pas, sénéchal de Poitou, et quantité d'autres. Même Georges de la Trémouille, que j'essaie de réhabiliter. Si un personnage se réhabilite là-dedans, c'est Georges de la Trémouille. Il y a encore plus mauvaise réputation, c'est le traître absolu, que Charles VII. Bon, là, je crois qu'il faut le comprendre. Et je crois que, bien servi, mais Charles VII aurait dit, si j'étais bien servi, c'est parce que j'ai su bien me faire entourer. Et donc, il y a cette confidence qu'il a faite à sa demi-sœur, dont je fais état, à savoir, sa demi-sœur l'interroge, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce turnover dans votre entourage, les disgrâces, les favoris, etc. Il dit, mais c'est volontaire, j'ai deux modèles, le modèle de la chaise périlleuse, le roi Arthur, eh bien, à ses côtés, à table ronde, il y a une chaise périlleuse, et on peut s'y asseoir, un chevalier peut s'y asseoir, mais malheur à lui s'il n'est pas à la hauteur, il est précipité, hein. Le siège est un siège éjectable, pour ainsi dire, et donc je suis le roi Arthur, si c'est quelqu'un n'est pas à la hauteur, il disparaît. Et puis la deuxième comparaison, c'est la roue de la fortune. Les hommes du pouvoir sont accrochés à cette roue, mais c'est moi qui fais tourner la roue. Hein, donc c'est assez bien trouvé. Alors c'est une interprétation qu'il a avancée. À mon avis, je pense que c'est une réinterprétation, qu'à certains moments de son règne, il n'a pas été tout à fait le maître du jeu. Donc voilà. Donc il connaissait ses limites, il connaissait ses faiblesses, il connaissait ses obstacles. Peut-être qu'il les majorait un petit peu. C'est une affaire entendue parce que c'était son caractère, toujours un petit peu en retrait. Et on voit très bien que même après 1440, alors qu'il est dans une situation meilleure, eh bien, il a du mal à évincer telle personne, etc. Et donc, il y a un témoignage en 1446, quelqu'un qui dit je le connais bien, quand il veut évincer quelqu'un, et il l'a fait à plusieurs reprises, ça prend beaucoup de temps. Il avance ses pions, etc. Puis, à un certain moment, tel un fruit mûr, son favori tombe de l'arbre. Donc, voilà. Ce qui signifie quand même que, quel que soit son bon sens, quelle que soit sa ténacité, quelle que soit sa résilience, c'est un terme qu'il faut peut-être employer, Charles VII aurait peut-être pu être plus énergique. Ça n'était pas son tempérament.
Est-ce que le faible crédit qu'on lui porte, on va terminer peut-être par une introspection du rapport des Français au pouvoir et à leur souverain. Est-ce que l'ensemble finalement de ces qualités que vous lui décrivez n'est pas la raison même pour laquelle on l'aime moins qu'on le devrait ? Ce que je veux dire, est-ce qu'on n'a pas quand même un élan particulier, des affinités particulières à l'égard de souverains plus flamboyants ? Un amour du panache, peut-être même jusqu'à l'esbrouffe, oui, que n'avait pas Charles VII.
Tout à fait, vous avez tout à fait raison, c'est un petit peu un roi mal aimé. Hein. Mais je constate, et donc je rectifie un petit peu, la popularité de Charles VII. Est-ce que Charles VII a été un roi populaire ? Est-ce qu'il a été un roi aimé ? Son père, Charles VI, on l'appelait le bien-aimé. C'est étonnant, parce qu'il y a une calamité, ce roi. Bon, mais ça fait rien. Le bien-aimé. Eh bien, je pense qu'à la longue, les Français lui ont rendu grâce. Et ça se voit, je crois, à deux choses. Premièrement, les circonstances de ses obsèques. On voit bien qu'il y a une ferveur populaire, notamment à Paris. Il y a des échos de cela. Et puis, deuxièmement, disons, les contemporains qui ont été extrêmement admiratifs de lui. Après le temps de l'adversité est venu le temps de la prospérité, et Charles VII a été le fondateur de cette prospérité politique, économique, sociale retrouvée.
Écoutez, par ces mots, on peut aussi ajouter que l'histoire, à travers vous, peut lui rendre grâce et le rétablir dans son véritable rôle. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et j'invite nos auditeurs à se reporter à votre ouvrage pour se faire une image plus juste de ce Charles VII à travers sa politique, car c'était un roi politique, finalement, c'est peut-être ça qu'il caractérise le plus, un sens politique.
Merci.
Merci à vous, Philippe Contamine. Je donne les références de votre ouvrage, Charles VII, une vie, une politique, par Philippe Contamine, aux éditions Perrin, dans les collections Biographie. Merci à tous de votre écoute.